Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Jacques Lacan, alors que se tient au Centre Pompidou-Metz, Lacan, l'exposition, sous-titrée « Quand l'art rencontre la psychanalyse », nous écouterons une déclaration de Jacques Lacan en marge du 28e Congrès international de psychanalyse qui se tenait à Paris en juillet 1973, auquel Jacques Lacan n'avait pas été convié, mais où il était néanmoins plus présent que jamais. Mais avant cela, en octobre 1981, pour rendre hommage à Jacques Lacan, mort cette année-là le 9 septembre, les Nuits Magnétiques lui consacraient une série de 5 émissions. Tout de suite, premier volet, ébauche d'un portrait. En 1981, quelques semaines après sa mort, les Nuits Magnétiques programmaient une série de 5 émissions de témoignages sur Jacques Lacan, recueillis par Laure Adler et Bruno Sourcy. Une série que Alain Weinstein disait avoir été motivée par les multiples réactions écœurantes, c'était le mot qu'il employait, qu'avait suscité sa disparition. De cette série, nous allons entendre la première émission dans laquelle était interrogé le psychanalyste Bernard Tiss, l'écrivain François Weyergans et Jacques-Alain Miller, psychanalyste et gendre de Jacques Lacan, dont il était devenu l'exécuteur testamentaire. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, première des 5 émissions, ébauche d'un portrait, diffusé le 5 octobre 1981 sur France Culture.
Risque de turbulence, bonsoir. Et cette semaine, on commence avec une série sur Jacques Lacan. Parce qu'il faut bien dire qu'on a tous été un peu écœurés par ce qui s'est écrit et dit sur Jacques Lacan au moment de sa mort. Laure Adler, qui vous en parlera elle-même demain, et Bruno Sourcy ont voulu recueillir, en contrepoint, des témoignages, de simples témoignages de ceux qui l'ont vraiment rencontré, c'est-à-dire des amis, des élèves et aussi des analysants. Ce soir, première émission, ébauche d'un portrait.
Lacan est né le 13 avril 1900 et il est mort le 9-9-1981. Il a fait la preuve par neuf de son style de vie.
François Valle.
Et quand il est mort, qu'est-ce qu'on a entendu à la radio, hein ? Guernica vient de revenir en Espagne, des centaines de baleines viennent de s'échouer et Lacan vient de mourir. La mort de gens de ce genre angoisse toujours beaucoup dans les années qui précèdent la mort. Hein.
Bernard Tiss.
Et c'est pas parce que Lacan est mort le 9-9-1980, hein, c'est-à-dire faisant la preuve d'un style, une preuve par neuf jusque dans la mort, hein, c'est pas pour ça que... C'est plus ce que je voulais vous dire. Pourquoi je m'embarquais dans cette... Qu'est-ce que je voulais vous dire avant ?
Vous disiez que ça angoissait les gens.
Oui, que la mort à venir de Lacan angoissait beaucoup et qu'il s'est passé pour Lacan la même chose que pour Bouddha. Relisez la vie de Bouddha, vous verrez que quand il a commencé à vieillir, ses plus fidèles serviteurs ont commencé à le trahir, à lui dire « mais vous êtes incapable, mais je vais prendre la direction ». Et on a assisté juste au moment de la mort de Bouddha à toute une série de scissions et de séparations qui me font étrangement penser à ce qui s'est passé au moment de la mort de Lacan.
François Veillargans, entre autres, est romancier. Et son premier roman, Le Pitre, racontait son analyse chez Lacan. Il est donc bien placé pour nous dire comment ça commence, une analyse avec Lacan.
Ça se passe quand on téléphone pour prendre rendez-vous. Et alors, qui donne un rendez-vous le lendemain, qu'on y va, et puis qu'on est reçu, et puis qui dit « Bonjour, asseyez-vous ». Alors on s'assied, et puis il dit « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Alors on dit « Ben écoutez », et puis on dit toutes sortes de choses, selon les gens. Vous voulez savoir ce que j'ai dit, moi ?
Oui.
Ben vous le saurez pas.
Et ça a duré combien de temps ?
C'était très court. Et Lacan est quand même est né sous le signe de la brièveté pour certaines personnes, parce que j'entends que d'autres gens ont traîné chez lui pendant des années, 5, 10 ans, on dit ça.
Même 30, il paraît.
Il paraît, oui. Non, moi, c'était cool, mais c'était très... je voyais beaucoup en peu de temps. C'est-à-dire que je voyais tous les jours, de toute façon, parfois deux fois par jour, de temps en temps, trois fois le même jour. À 8h du matin, midi et 5h30 l'après-midi. Tout ça. Donc, ce qui m'empêchait de faire autre chose. Et c'était bien agréable, parce que comme je n'avais pas tellement envie de travailler, moi, je trouve ça bien. Et c'était des séances très courtes. C'est-à-dire qu'on s'encontrait, parfois, je disais une phrase, je n'avais même pas le temps de vraiment entrer dans la pièce. Et je trouve ça formidable, parce que... c'est surprenant à chaque fois, c'est-à-dire la durée n'est pas du tout fixée, donc on ne sait pas trop où on va à l'aventure, c'est comme dès qu'on sort de chez soi, on ne sait pas trop ce qui va ça se passer. Enfin, il y a deux gens, vous savez, il y a les gens qui ont des programmes bien établis, qui savent ce qu'ils feront dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, même dans leur vie, et puis il y a d'autres gens qui improvisent un peu, qui improvisent, et finalement, entre ceux qui n'ont jamais rien prévu, ceux qui ont toujours tout prévu, il arrive pas mieux ni moins bien aux uns ou aux autres. Et Lacan a dû tabler là-dessus, puisqu'il s'est rendu compte que quand on voyait un analyste ou un psychologue, même ou n'importe qui de ce genre, 50 minutes, des dates fixes et tout ça, et les bonnes 50 minutes qui en général durent une heure parce qu'ils veulent que tout ça est... Enfin, je sais pas comment dire, ils veulent gratifier, comme ils disent, leurs patients. Il s'est rendu compte qu'on s'endormait et que c'était des espèces de rencontres de routine où sûrement les gens avaient un grand plaisir, doivent avoir un grand plaisir à déballer tous leurs petits malheurs, mais qui ne font avancer personne, qui guérissent personne. C'est-à-dire, s'ils guérissent, c'est qu'ils n'étaient pas malades. Genre, les gens qui guérissent ne sont pas malades. Et ils ne croient pas que la guérison soit vraiment en jeu dans la psychanalyse. Et je ne pense pas que Lacan soit jamais occupé de vouloir vraiment guérir des gens. C'est un peu le coup de l'aspirine. C'est-à-dire, on ne sait pas si on prend une aspirine, on ne sait pas si on ne l'avait pas prise, ce qui serait passé et tout ça. Et je pense qu'il y a le même problème avec l'analyse. C'est qu'y aller pour guérir, c'est faute un peu tordue quand même. C'est pareil pour le reste, aller voir un otorino aussi, parce que finalement, on n'a peut-être pas besoin de prendre les gouttes dans le nez, peut-être que le rhume grillerait autrement. Enfin, tout ça, c'est complexe, je sais pas si... Non, là, le seul point qui me paraît intéressant dans le peu de choses qu'on peut dire à la radio et qui peut passer dans une voix qui parle à la radio, c'est la violence des rencontres qu'il pouvait y avoir, enfin, que j'ai ressenti comme telle, et qui ressemblait à... Oui, quelque chose de violent. Violent pour moi, c'est un grand éloge, parce que il y a un peu que ça qui m'intéresse vraiment. Et je pense qu'on souffre tous de ne pas l'être assez. Et c'était, si vous voulez, vous avez rendez-vous à 14h avec un monsieur. Et puis il y a toute cette chose de psychanalyse très forte que je n'arrive pas à expliquer, c'est quand même étonnant qu'on aille voir quelqu'un seulement parce qu'on paye, je sais pas, 200-300 francs pour le rencontrer, ça change tout. Et parce qu'on a décidé préalablement aussi de lui dire plein de choses qu'on ne dit pas. Enfin, ça rend la rencontre quand même plus violente que toutes les autres. Et ça apprend peut-être, ça apprend à rencontrer d'autres personnes. Et ça me paraît une chose très intéressante. Il me semble que... j'ai fait cette analyse en 63-64 par là, ça a duré un an et demi. Donc il y a quand même eu 600 séances finalement, ou un paquet de ce genre, puisque je l'ai vu tout le temps. Le dimanche, il me faisait venir chez lui dans sa maison de campagne, je prenais le train à Guitrancourt, et son jardinier venait m'attendre à la gare en voiture, et puis j'étais reçu, et puis le jardinier me raccompagnait, prendre l'autre train, des choses comme ça qui à la fois sont aberrantes si on les raconte ça aux yeux des psychanalystes purs et durs, qui sont des gens que je ne connais pas. Mais moi, je trouvais ça, d'abord, ça me faisait prendre l'air le dimanche. J'étais même pas si bête de sa part à lui. Sinon, je serais toujours resté en ville, donc il m'aillerait un peu. Ce qui était donc un souci thérapeutique évident. Et en plus, ces rencontres étaient dures et violentes parce qu'on n'avait pas le temps de rien dire. Donc, en ne disant rien, on disait quand même plein de choses. Et donc, on posait des questions sur ce qu'on disait. Et même il arrivait parfois que je me réveillais le matin, j'avais fait un rêve important, je me disais tiens merde, voilà encore un rêve qui va me coûter 1000 francs parce que je vais devoir le dire en trois fois, il est si long, etc. Alors j'arrivais chez lui et tout à coup, tout à trac, et bon, je suis reçu, l'importe. Et du coup, je lui dis, tiens, j'ai vu un marronni en fleurs. Ah, c'est ça, en fleurs, hein, mon cher. Hein, au revoir, à demain. Bon, ça arrêtait là. Oui. Et alors, ces choses-là, tout à coup, il disait ça, non, quand, parce que, bon, là, j'invente l'exemple, c'est parce que le mot fleur peut vous ramener, ne fût-ce qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, peut vous ramener à des problèmes, plein de choses. Enfin, il le savait, c'est-à-dire qu'il disait pas ça au pif, mais il disait par rapport aux rencontres précédentes. Et il y avait, à un moment donné, j'avais plein de problèmes dans cette analyse avec des téléphones, parce que, bon, d'abord, déjà, je passe beaucoup de temps au téléphone, mais c'est pas ça, c'était, bon, des téléphones, quand j'étais petit, mes parents téléphonaient, je sais pas, bon, tout un truc, et puis, vous savez que le téléphone, c'est une chose, on peut couper le fil et tout, ça peut, on raccroche, on décroche, on paye pas, on paye, bon, la note et tout ça. Bon. Alors, je me débattais avec ces histoires de téléphone qui semblaient devoir donner accès à quelque chose d'autre que le téléphone, bien sûr. Et tout à coup, il y avait déjà 3-4 séances que ça durait, c'est-à-dire un jour et demi, et puis, je viens, et il y avait 4 annuaires à téléphone entre lui et moi, par terre, comme ça. Et bon, je remarque ces annuaires, je me dis, tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, enfin, il pourrait les ranger, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font ces annuaires. Bon, rien, je parle d'autre chose. Séance suivante, je reviens, je trouve de nouveaux annuaires là, je me dis, tiens, c'est comme bien qu'il y a 48 heures, ces annuaires sont là. Alors, est-ce qu'il est mis exprès pour moi, ou est-ce que ça traînerait pour tout le monde? Mais les gens doivent se prendre les pieds dedans, ça me paraît pas. Donc peut-être c'est pour moi, alors je regarde les annuaires, il voit que je les regarde, je me dis, je vais pas lui faire le plaisir de lui demander pourquoi ils sont là. Donc, je vais pas en parler, ces annuaires, mais d'un coup, quand même, dans les annuaires, on revient des noms propres. Alors, moi, je parle des noms propres, puis l'importance du nom propre. Une chose sur quoi Lacan insistait beaucoup, il disait, un jour, je vais vous apprendre pourquoi vous vous promenez dans des rues qui sont nommées par des noms propres. Et puis, pourquoi il y a des rues qui ont des noms, et tout ça, bon, des trucs. Ça, bon. Et finalement, il avait mis les annuaires exprès. Ça veut dire que, vous voyez, enfin, c'est intéressant, je trouve. Et je vois pas, je vois qui d'autres rues ont d'idées dans cette corporation. Alors, d'autres préfèrent vous garder une heure bien au chaud, et lui. Alors, je dis ça parce qu'ils entendent dire partout, je ne suis pas très au courant, mais quand même, j'entends dire que les gens n'aiment pas ça, que ça a été beaucoup reproché, ça a été même une des raisons pour lesquelles on l'a viré d'une école plus officielle, je ne sais plus, non, s'occuper un académicien, je ne sais plus qui, ça. Mais, alors je vais totalement dire que moi, je trouve ça très bien. En plus, il fait des séances très longues. Je me souviens d'être resté chez lui, parfois très très longtemps, une heure et quart, une heure et demie d'affilée, pas très souvent, mais enfin, quelque chose est arrivé aussi. Donc, c'est comme n'importe quelle rencontre, le temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore, en fait,
mais par exemple, quand vous le voyez 3 fois par jour, le matin, à midi et puis le soir, c'était préétabli d'avance ou ça dépendait justement de la violence de la rencontre?
Ah non, oui, c'était pas du tout préétabli. Il me dit, non, c'était chaque fois, chaque rendez-vous était donné à la fin du rendez-vous précédent. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune règle. Je pouvais aussi bien penser en le quittant un lundi à 9h du matin qu'il allait me dire, vous venez dans 2 mois, ou venez dans 3 semaines, ou... Alors, les rares fois il l'a fait, c'est parce qu'il partait en vacances. Ou bien une fois, moi, c'est des trucs qu'une fois, je lui dis, bon, moi, il faut que je parte en vacances. J'ai une occasion, des amis, en voiture, blablabla. Non, il me dit, écoutez, c'est vraiment idiot, vous ne partez pas maintenant parce qu'on est en train de toucher à quelque chose d'essentiel et vous ne voudriez pas partir maintenant. Et je lui dis, écoutez, je pars. Bon. Et donc, je partais pour Venise. C'était à Pâques. Et là-dessus, donc, je suis à Venise, et à Pâques 64 ou 63, hein, sur qui je tombe, place Saint-Marc, sur Lacan. Qui était là, bon, je n'avais pas dit où j'allais, mais lui non plus. Et quand même, on se rend compte, là, je trouvais... Ben, ça, c'était le côté un peu surréaliste, comme ça, qu'il y avait chez lui, qui est quand même pas... Enfin, j'invente rien, là, c'est comme ça que les choses se passent. Mais ça arrive aussi avec n'importe qui. Ça arrive souvent, ça, finalement. On croit que c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire du tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi chez lui, enfin, dans la psychanalyse, telle que lui la pratiquait, c'est l'ordinaire des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, finalement. Parce que... Les choses, tout ce que je pouvais lui dire, c'était des choses très simples. Enfin, dans tout ce que... Ça, c'est assez en soirée chez lui, là. Un aspirateur qui rentre dans la pièce, ça lui aurait bien plu.
Oh là là! Oh, ça va mal! Ce sont mes chaussures. J'avais dit au vendeur, j'avais dit, elles me vont pas. Et il me dit, de l'extérieur, elles font bien. Et il dit, oui, mais à l'intérieur, elles font mal. Il me dit, de l'extérieur, ça se voit pas. Mais dis alors, vous n'avez qu'à me les retourner. Mais si je vous les retourne, ça se verra. Et bien, je veux pas que ça se voit, je les garde comme ça. Et puis après, en partant, il me dit, si ça va pas, vous n'avez qu'à me les retourner. Ça n'a pas de sens.
Jacques Lacan.
Bon ben, disons quelque chose de plus. L'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de 3 siècles. D'ailleurs, le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi ? On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus, aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses, peut-être, surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
Gendre et héritier de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller est responsable de la publication des séminaires, une responsabilité qui doit exiger une grande science de la préparation.
Moi, j'aurais peut-être même aimé que, je ne sais pas, question après question, on coupe un moment, vous me dites la question, je réfléchis une seconde, ou... Enfin,
oui,
on va voir.
Ça va venir. Bien, vous voulez commencer par quoi, alors si on...
Dites-vous d'autre chose, alors.
Ah, mais je ne sais pas, moi j'avais pensé qu'on commencerait par là. Vous avez songé à quoi ?
J'ai mis des choses comme ça. La première chose, c'était que la notoriété lui était venue très tard, à 65 ans.
Ah oui, on peut commencer comme
tout,
ça. Mais allez-y, vous commencez. Je pense que c'est plus
bon,
simple.
Bon, alors commençons.
On peut y aller, là ?
Oui. Oui, on ne pense pas souvent que la grande notoriété de Lacan lui est seulement venue lorsqu'il avait 66 ans. C'est finalement très tard. Et pourtant, il donne l'exemple, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un effort intellectuel, d'une obstination rare et d'une étonnante persévérance. Et je dirais que peut-être ce qui frappe le plus, c'est cette continuité de cette pensée. Et en même temps, sa solitude, malgré le grand nombre de ceux qui, petit à petit, se sont agglutinés autour de sa parole, de son écriture. En même temps, c'était quelqu'un chez qui il n'y avait pas du tout de clivage entre le public et le privé. Je veux dire que je ne pense pas qu'aucun de ses familiers... Aucune personne de son entourage, comme on dit, n'est vraiment perçu, connu un autre Lacan que celui qui faisait ses séminaires suivis par une foule si dense à partir d'une certaine date, ni un autre Lacan que celui de la séance analytique. Il y avait là une authenticité que, pour ma part, je n'ai jamais trouvée chez aucun autre des penseurs de notre époque. Alors, j'ai dit quelques mots de sa vie, évidemment consacrés à sa pratique. Il a tout à fait ennobli même ce terme. Et en même temps... je ne dirais pas à sa théorie, mais à son tracas théorique, puisque ça n'était pas quelque chose qui, un souci qu'il prenait pour quelque obligation professionnelle que ce soit. C'était vraiment ce tracas théorique, c'était l'accompagnait toujours, je veux dire, sans cesse. Je ne l'ai pas vu à cet égard dans un état qu'on appellerait de repos à proprement parler, tout le temps où, depuis 1974, il s'était centré sur la théorie des nœuds, sur les nœuds qui sont un domaine marginal, mal exploré, mal difficilement formalisable. Les mathématiques, il s'y adonnait, je veux dire, l'exercice de les dessiner, de les modifier, s'y adonnait sans relâche, enfin, avec un tracas, mais une insatisfaction aussi croissant. Et il y avait donc là comme l'idée d'un mouvement perpétuel qui représentait assez bien ce que Freud évoque là de l'éternité du désir inconscient, de ce désir n'a pas de principe d'arrêt. Et je crois que tel qu'il s'était situé, Lacan, dans ce sillage, son enseignement non plus n'a pas de principe interne d'arrêt. Je ne sais pas si on a l'idée de l'autonomie de pensée, de si je puis dire, de Lacan. Bien sûr, le principe kantien, pensé par soi-même, n'est pas un principe lacanien. On ne pense pas, selon lui, on ne pense pas par soi-même. On peut se mettre dans le fil, dans le sillage de l'inconscient. Mais il le faisait, il faut dire, avec une telle constance, une telle fermeté, que, enfin, rien, on peut dire, ne l'a fait dévier de ce fil qui lui était propre. D'ailleurs, il en avait lui-même le sentiment, puisqu'il disait que, après tout, il s'émerveillait peut-être d'avoir été ainsi comme guidé par une rampe, enfin d'avoir été bien orienté, de ne pas avoir perdu précisément ce fil continu. Et je crois qu'on aura à méditer sur cette trajectoire. Enfin, est-ce que c'est une histoire intellectuelle sans doute sans précédent.
François Veillargans.
On dit des choses simples que je peux, pardon, vous dire à vous. Enfin bon, maintenant j'espère un peu guéri, mais disons à l'époque. Je pouvais raconter des choses à des amis, vraiment des choses qui les faisaient rire, qui moi-même me faisaient rire tout le premier, et puis je racontais à Lacan, et d'un coup je pleurais, c'était intéressant. Des petites choses simplettes, des petits souvenirs d'enfance, ou des petites histoires. Ou même, pardon, j'étais allé voir La mort aux trousses d'Hitchcock un soir, le lendemain je vais le voir, et puis bon, je lui raconte le film, je lui dis, ça occupera un peu, je me mets à lui raconter La mort aux trousses, parce que ça intéressait un peu le cinéma, et d'un coup je me trouve incapable de raconter La mort aux trousses sans pleurer, et je pleurais, et ça me paraissait être une des pires choses qui soit que de lui confier le scénario La mort aux trousses. Donc j'avais dû investir, bon, blablabla, plein de choses là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'analyse, c'est que je pouvais raconter La mort aux trousses à qui que ce soit, sans le moindre problème. Je pouvais même écrire sur ce film, faire ce qu'on voulait. Et à lui, non. Et alors, pourquoi ? Alors après, on découvre des choses. Et puis, surtout, avec ces séances courtes, ce qui était intéressant, c'est que ça continuait après. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans la rue, dans un drôle d'état, et que, bon, moi, je marchais ou je marchais pas, enfin... la séance durait longtemps sans lui, pas besoin qu'il soit là. Finalement, lui, il avait d'autres choses à fouetter. Bon, voilà, enfin, entre autres choses. Voilà, ouais.
Donc, vous avez vécu mobilisé dans la région de la rue de Lille, alors ? Parce que quand il y avait 3 séances par jour, quand on ne savait pas quand était la prochaine séance, il fallait être sans arrêt sur la mobilisation.
Non, mais j'habitais à côté. Alors, ça arrangeait bien les choses.
À cause de lui ou c'était
un hasard. À cause de Guillaume Apollinaire, j'ai pas eu d'accès, parce que je connaissais depuis que j'étais petit, hein, le poème de Guillaume Apollinaire, Lundi, rue Christine. Et alors quand j'ai eu à choisir un appartement tout seul, je me suis dit, je voudrais habiter rue Christine à cause de ça. Et puis finalement, il n'y avait rien de libre Christine, alors j'ai trouvé un truc rue Dauphine. Bon. Alors rue Dauphine, c'est pas loin de la rue de Lille, et alors, voilà. Et oui, c'est vrai que c'est peut-être, au fond, peut-être, oui, bon, ça comme le coup du nez de Cléopâtre, Lacan aurait habité dans le 19e arrondissement, peut-être je ne l'aurais jamais vu. J'étais en retard à chaque fois. J'étais un peu en retard, mais lui me faisait attendre aussi, c'était un drôle de truc. Parce que j'arrivais par exemple, il me disait, venez à 7h du soir. J'arrivais à 7h10. Ou 7h15, et il me recevait à 9h20. Et bon, alors, là-dessus, il ne me laissait pas attendre, ça l'attendre, il s'attendait dans une bibliothèque, et moi, c'était tout à fait bien, parce que je regardais ses bouquins, je lisais des livres que je ne possédais pas, tout ça. Puis alors, il me recevait le dernier, après, on partait tous les deux, j'ai gardé un souvenir assez touchant et attendrissant de tout ça, parce que ça avait un côté. Là, il sortait tout à fait de son rôle de psychanalyste, tel que la psychanalyse, c'est tenté que la psychanalyse soit une chose qu'on puisse enseigner, enfin, tel que ça se pratique, d'autre part. Alors, on fermait tout ensemble, il sortait de l'appartement, alors j'attendais, il allait prendre son écharpe, son manteau. Et puis il fermait les portes, puis on descendait le palier. Une fois c'était moi qui poussais sur le bouton de l'ouvre-porte pour se trouver dans la rue. Puis on parlotait encore un peu rue de Lille sur le trottoir, chose et d'autres comme ça. Et ça avait un peu de rapport, ça, sympa, ça, entre guillemets. Là, comme, ça, c'était curieux. Il me faisait beaucoup écrire aussi. Il paraît que ça se fait pas, ça. Mes rêves, tout ça, il me disait écrivez-les-moi, écrivez-moi. Ça. Je crois que je lui dois d'avoir. Enfin, j'ai entre-temps publié, publié quelques livres. Je ne sais pas si je les aurais publiés. Enfin bon, c'est pas intéressant ça.
Mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de gens qui attendaient, puisque si les séances changeaient tout le temps.
Oui, il y avait du monde, oui, mais enfin moins qu'au buffet de la gare de l'Est. Enfin, il y avait des gens qui d'ailleurs avaient l'impression que beaucoup étaient un peu gênés d'être vus. Moi, je trouvais ça rigolo.
C'est comme le bordel.
Oui, c'est ça, absolument. C'est un peu comme on imagine qu'étaient les bordels du 19e siècle. C'était quand même des. Enfin, là, je vous parle quand même d'il y a 18 ans, quoi. Non, ça a dû changer depuis. Je sais pas, j'étais très jeune moi-même. Et eux étaient. Enfin, moi, j'étais le plus jeune toujours. Ça me déplaisait pas. Comme ça, j'avais l'impression d'être moins atteint que les autres clients qui étaient plus âgés, manifestement. Moi, j'avais 22 ans, 21 ans, comme ça.
Et comment ça s'est arrêté, votre analyse?
C'est arrêté que je suis plus allé. Donc, c'est pas vraiment arrêté. Je suis plus allé, je lui devais beaucoup d'argent. Je dis, bon, il y en a marre de voir cet argent, tout ça. Pourquoi je devrais. Bon, je lui devais, il me recevait crédit, tantôt, il me disait, bon, écoutez, quand même, c'est pour votre bien, vous devriez me payer, c'est pas moi, comprenez-moi, j'ai pas besoin de cet argent. C'était vrai, c'était pas tellement. Et enfin, c'était quand même une certaine. Enfin bon. Et alors, je suis plus allé. Et alors, après, j'ai vu Madame Dolto, qui m'a dit, je sais pas si on peut pas être tout ça en public, finalement. Peut-être parce qu'en plus, d'abord, je gâche dans la matière d'un petit livre qui me reste à écrire sur tout ça. Et ensuite, peut-être qu'il ne faut pas citer de nom propre. Mais. Alors, je l'ai revu de temps en temps après. Enfin bon, que ça, c'était en 64 ou 65, je ne me souviens plus très bien les dates. Alors, il est, donc, on l'a couru 65 à 81, ça fait 16 ans de rapport tout à fait en dehors d'une analyse. Qui était une autre forme de l'analyse. Moi, je pense que. Je me souviens d'avoir envoyé une carte postale de Munich il y a 3 ans. J'étais à Munich et j'avais découvert Lacan traduit en allemand dans une librairie. Et alors là-dessus, j'achète le bouquin, puis je lui écris un petit mot à ce propos. Bon, en fait, ça faisait toujours partie d'une espèce d'analyse qui était, alors à ce moment-là, ni finie, ni infinie, ni faite, ni à faire, et, c'est-à-dire une vraie analyse. Parce que tout le reste, ce n'est pas des analyses, le reste, c'est des choses dans lesquelles les gens se mettent, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Infini. Alors, on peut couper à ni fait, ni à faire, qui serait une belle chute.
Jacques-Alain Miller.
Je pourrais dire encore, je crois que l'essentiel, c'est aussi bien voir que c'était un grand rationaliste, contrairement à la façon dont on le présente, et que il y avait, je dirais, d'autant plus de mérite que ça n'est pas immédiatement dans l'élément de la rationalité qu'il avait à se déplacer, mais dans le particulier d'une expérience. Très difficilement généralisable et très difficilement transmissible, et que son exigence de rendre raison, on peut dire qu'elle elle le mettait effectivement, c'est elle qui le mettait au travail. Et alors, est-ce que je peux dire que l'expérience débordait continuellement sa raison? Je ne crois pas. Je crois qu'il a essayé de donner sa place, et une place mathématisable, à l'impossible à dire, qui était pour lui le critère même de la pratique analytique. Ce qui fait que je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès de sa pensée, en tout cas lui-même aurait ricané de ce mot de progrès.
Mais on peut peut-être parler de la continuité théorique.
Je crois qu'il... Souvent, il évoque plutôt le serrage, essayer de serrer de plus près, au fond, toujours la même chose. Il a dit d'ailleurs que ce qui aurait été sa phrase la plus familière, c'était le « ce n'est pas tout à fait ça ». Ce n'est pas tout à fait ça encore. Et il y a dans tout son enseignement donc cette exigence rationaliste. Ce serait à qualifier, bien sûr, ce rationalisme par lui-même est refondu dans son exigence, mais une exigence rationaliste et une exigence de précision, une précision vraiment très délicate, en fait, peut-être on ne percevait pas toujours dans l'énonciation faite devant un grand auditoire qui suppose parfois, je dirais, des vociférations, mais en fait, une précision vraiment délicate et parfois exquise pour attraper aussi les choses par le bon bout de la raison, comme disait Rouletabille. C'est pourquoi parfois une indication de Lacan sur une question analytique, un paragraphe, voire une phrase, reste précieux pour ceux qui savent les percevoir, les souligner. Alors, ce n'était pas du tout un chaman, ce n'était pas du tout un sorcier. C'est la thèse de Catherine Clément qui a écrit un joli livre sur le docteur Lacan, et en tout cas un livre que lui-même avait trouvé tout à fait amusant, qui est le livre d'une ancienne fan, en quelque sorte, mais... Je suis forcé de ne pas être d'accord avec elle. Je ne vois pas du tout un sorcier qui aurait eu de la complaisance pour la face de suggestion ou de prestige que comporte la relation, peut comporter la relation analytique. Au contraire, je l'ai dit, une exigence profondément rationnelle.
Vous venez d'entendre Ébauche d'un portrait, le premier des 5 temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de turbulence des nuits magnétiques. Première diffusion le 5 octobre 1981 sur France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 1973, se tenait à Paris le 28e Congrès international de psychanalyse. Un congrès auquel Jacques Lacan n'avait pas été convié, mais où il était néanmoins plus présent que jamais, tant pesait alors son enseignement sur la planète psychanalytique. C'était en tout cas ce qu'il affirmait à Nadine Nimier lors de l'entretien qu'il lui accordait dans le cadre d'un après-midi de France Culture qui rendait compte de ce 28e congrès. À ce genre d'entretien, Jacques Lacan ne consentait de se plier que très rarement. Et celui-ci ressemblait d'ailleurs plus à une mise au point, voire à un droit de réponse, à un moment où certaines des thèses qu'il avançait étaient contestées par bon nombre de ses collègues psychanalystes. Notamment quand il défendait que l'inconscient était structuré comme un langage. Cet axiome, sur lequel reposait alors son discours, Lacan en réaffirmait avec force la validité dans l'après-midi de France Culture de 73 que nous allons entendre. Les après-midi de France Culture, 28e congrès international de psychanalyse, avec en marge de ce congrès une déclaration de Jacques Lacan, une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture.
Nadine Nimier, vous avez obtenu un document que la presse a annoncé, d'ailleurs, c'est une déclaration de Jacques Lacan. Jacques Lacan étant, bien entendu, le grand exclu de ce congrès, et il est connu que Jacques Lacan n'accepte jamais de se manifester devant un micro. Alors, pour une fois, il est avec nous.
Docteur Lacan, en ce moment se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité, vous n'en êtes pas.
Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. L'enseignement que je reçois de mon expérience, à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu'on la qualifie comme telle. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que, dans certaines conditions, ça soit difficile de s'en sortir. Et c'est pourquoi il est préférable que l'analyste, qui heureusement n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Et savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. J'ai prononcé le mot « discours ». C'est une notion très élaborée. Je l'ai élaborée sans doute à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience et où je me suis efforcé extraire quelque chose, 20 ans, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela j'ai se tire une conception du monde. Ce que je définis, c'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de lien social.
Vous n'êtes pourtant pas le seul à vous être intéressé au discours. Est-ce que ce n'est pas le fait des psychanalystes qui se penchent plus particulièrement justement sur le formalisme de l'analyse ?
On peut poser la question en ces termes, n'est-ce pas ? C'est vraiment un point de départ, et c'est d'ailleurs de là qu'est parti ce que je me trouve appelé, ce qui se trouve situé comme mon enseignement. L'analyste reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question. La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, n'est-ce pas, les tendances de vie, par exemple, ou les pulsions de mort, ça ne peut en aucun cas y être identifié. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées. Il a employé ce terme, les pensées même qui le guident, n'est-ce pas ? Il insiste sur ce que ce sont des pensées. Et quand on lit, on s'aperçoit, n'est-ce pas, que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci, qu'il n'y a pas de pensées qui ne fonctionnent comme la parole, n'est-ce pas ? Qui n'appartiennent au champ du langage. La façon dont Freud opère part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, le lapsus, le mot d'esprit. S'il met en avant ces éléments-là, il faut lire ses ouvrages de départ, qui sont La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne, ou justement ce qu'il a écrit sur le mot d'esprit, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas un seul de ces éléments qu'il ne prenne comme articulé par le sujet, et c'est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation, n'est-ce pas ? La nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas ? Et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction, et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas ? Que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient. Le réel même, tout court, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où ? C'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller. Mais bafouiller en mots. Professeur qui a écrit en marge de mon enseignement. Il a cru faire une découverte en disant que le rêve ne pense pas. C'est vrai, il ne pense pas comme un professeur. Trompe-t-il ou se trompe-t-il le rêve ? Le professeur ne veut pas poser la question au rêve, pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur. Parce qu'il est clair, maintenant, que pendant la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver. N'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil. L'ennuyeux est qu'il en reste des choses totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence, et la psychologie au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie ? Toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète ? Un certain mode du jouir, le jouir de l'être parlant que vous êtes tous qui m'écoutez. s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tard, avec Spinoza, étaient arrivés à ça, que l'essence de l'homme est le désir. Il est vrai qu'ils ne mesuraient pas bien à quel manque le désir répond. À quelque chose, il faut bien le dire, de fou. À quoi, pendant longtemps, on a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. La façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques. Et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable, ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes, et d'autre part, ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux termes n'ont aucun rapport. D'un côté, c'est l'inconscient, de l'autre, c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l'analyse, c'est que la question est personnelle pour chacun des êtres parlant, qu'on ferait mieux de dire des êtres parlés, montre bien que c'est dans le langage que se joue l'affaire pour chacun. Bien sûr que, comment me le faire marguer, il y a des affects, oui. Mais c'est du discours qui l'habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d'ailleurs se démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique sur un affect aussi important que l'angoisse. Bon, ben, disons quelque chose de plus. L'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de 3 siècles. D'ailleurs, le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi? On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari. C'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
Vous avez fondé l'école, vous avez des élèves dont beaucoup d'ailleurs vous ont quitté, quelques-uns pour fonder plus récemment le dit quatrième groupe. Vous êtes quelqu'un d'écouté passionnément, de controversé passionnément, de suivi. Selon vous, quels sont vos continuateurs?
J'ai, depuis quelque temps, le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi non seulement ont su entendre ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses, mais d'ores et déjà savent leur donner plus qu'un écho, une suite. Et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
Est-ce que vous recevez en ce moment, justement, de congrès, la visite de congressistes?
Oui, j'en ai reçu, bien sûr, quelques-unes, comme c'est l'usage quand je suis à Paris.
La psychanalyse est devenue ces dernières années en France ce que nous appelons un fait de culture. Je sais que vous contestez le terme.
Oui, je conteste le terme dans toute la mesure où celui de nature auquel il s'oppose ne me paraît tout aussi contestable. Ce qu'on appelle un fait de culture, c'est en somme un fait commercial, enfin, n'est-ce pas?
Pourquoi
on peut dire que l'analyse, ça se vend bien, oui. Je parle des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. On peut entasser autant qu'on voudra de ces colonnes, de ces piles, de ces entassements de production diversement littéraire. C'est ailleurs que se fait le travail, et c'est dans la pratique analytique, pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt, parce qu'il est là tout à fait essentiel. Ce que j'essaie de former à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien, c'est une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle. C'est une école, pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.
C'était un après-midi de France Culture que Nadine Nimier consacrait au 28e Congrès international de psychanalyse, avec, en marge de ce congrès, une déclaration de Jacques Lacan. Une émission diffusée le 25 juillet 1973 sur France Culture. En octobre 1991, dans Les Nuits Magnétiques, 10 ans après la mort de Jacques Lacan, l'écrivaine et psychanalyste Marie de Pussé se souvenait de lui.
Début septembre, pendant tout un week-end dans Paris, un hommage a été rendu à Jacques Lacan. Marie de Pussé, elle, a préféré rester à l'écart de cette manifestation.
Oui, j'appelais le docteur Eros, je lui avais dit, mais c'est parce que quand on entrait dans son bureau, on profitait tout de suite, on était tout de suite heureux de sa passion de lire et d'écrire. Il avait en plus une très vieille plume ancienne qui grassait sur ses papiers. Et chaque fois que je rentrais chez lui, je m'allongeais sur son divan et j'avais envie de le supplier qu'il continue d'écrire, qu'il me laisse profiter de ça. Et à chaque fois, c'était une honte terrible pour moi, une douleur qui s'interrompt pour faire son boulot et pour venir écouter mes conneries. Et j'avais beau le supplier de ne pas le faire. En plus, il se levait avec un soupir terrible de quitter sa plume. Et j'avais envie de lui dire, mais laissez-moi profiter de votre naissance. Je viens pour ça, je paierai pour ça, je repars mieux. Je pense que les gens lui ont... Je pense qu'il aimait la philosophie de façon pareille et que les gens s'y sont trompés. Bien sûr qu'il était, comme un lecteur, rapide. Enfin, moi, je ne suis pas philosophe. Il était rapide, mais je me souviens un jour l'avoir nommé un article et il a tout de suite appelé Gloria, sa secrétaire. Il était 7h05 pour qu'elle se précipite pour l'acheter. Enfin, c'était ça, là. C'était un article sur la littérature, je crois que c'était de Solaire sur Bataille. « Ah bon, c'est beau !» Il m'a dit. Et vite, il a envoyé les Gloria. Alors c'était ça, moi, qui me faisait du bien. Le reste, c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'il était prêt à écouter toutes ces conneries. Et je pense que... Mais avec moi, c'est qu'un exemple. Il m'a donné l'ordre d'écrire comme Willia Colette. C'était un peu trop tôt, mais ce vieil homme, je m'en sais gré. Parce que même si ça m'a retardé encore de 10 ans, il avait raison. On allait mourir. Il avait raison. Donc je ne comprends pas que vous n'écriviez pas. Enfermez-vous 2 jours et écrivez. Ma vie, il n'avait rien à en foutre. Mais c'était un petit peu... Mais vraiment, j'ai pour lui, oui, un amour, comme ça, une tendresse. Et puis c'est quand même c'est un vieil homme bon, ce qu'on ne dit pas. Moi, quand je suis arrivée chez lui, j'avais perdu ma mère. Et je croyais que j'avais un autre problème, un an plus tard. Il m'a pris dans ses bras pendant un an pour que je pleure sur son épaule en me donnant des mouchoirs. Ça, c'est comme son amour de la littérature. On ne dit pas ça de lui, qu'il était bon. En te donnant des mouchoirs.
C'était un aperçu de mon passage en ce monde au nom de Lacan, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. L'occasion de rappeler la manière dont Lacan bouscula la communauté psychanalytique après-guerre. Lacan y éclairera Lacan à travers des entretiens, le plus souvent des déclarations, des discours, qui constitueront l'essentiel de ce programme au cours duquel nous entendrons également des psychanalystes, des analysants, d'anciens élèves, des amis. Une nuit après laquelle sera diffusée l'intégralité de la série « Témoignages après la mort de Jacques Lacan » proposée dans les Nuits magnétiques en octobre 1981. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.